Pasteur, nous sommes suspendus à vos lèvres. Vous avez la parole pour nourrir le peuple de Dieu.
Shalom. Très content de revenir en ces lieux. Et avant toute Seigneur, toute chose, j'aimerais être reconnaissant à mon collègue pasteur Joseph Bondo, de qui j'ai reçu l'invitation d'être ici en ces jours, quoique étant absent. Nous remercions les staffs qui nous a bien accueillis, et surtout de leur hospitalité. Et nous rendons grâce à l'assistance que vous êtes. Sans vous, nous n'allions pas monologuer. Nous aurions eu le temps juste de prier, de faire quelques minutes et partir. Votre présence est une bénédiction pour nous et pour tous ceux-là qui nous suivent de loin. Shalom encore. Lorsque j'ai eu l'invitation de venir chez vous, je me demandais qu'est-ce que j'allais dire. Mais le Seigneur m'a donné une conviction de parler de nos aînés dans la foi. Ceux qui nous ont précédés dans cette conviction que Dieu existait et qu'il existe et qu'il existera. Ces hommes-là, malheureusement, on ne va pas parler des femmes aujourd'hui, mais la fois prochaine, je parlerai des femmes aussi. Ces hommes parlèrent parole, parlèrent gestes, et surtout parlèrent images. Ils nous ont communiqué quelque chose qui influence le destin. Le destin est là, mais il doit être influencé par les paroles, par des gestes et aussi des images. Nous allons en tirer quatre ce matin. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais vous n'aurez pas le temps de me stopper. Mais comme je suis assisté de mon épouse, elle aura le temps de s'élever, juste de venir ici. Si je me tourne ailleurs, elle peut même venir me saisir qu'il est temps. On m'a dit que vous ne me donnez que 45 minutes, je ne sais pas avec ces quatre personnages comment je vais y arriver, mais le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Nous commençons par le premier personnage, c'est Salomon. Lisons dans Ecclésiaste, chapitre 12. Versets 13 et 14. Ces paroles de ces rois. Ah, mon sujet est très long, les paroles des sages. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme de clous plantés donnés par un seul maître. Oh! Dans ma Bible ici, j'aimerais lire la version qui est proche de ce que je veux parler. Ecclésiaste chapitre 12, chapitre 13 et 14. Je lis au nom de Jésus. Ici alors ce 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, Ecclésiaste chapitre 12, 15 à 16. Ces paroles influence le destin. Celui qui parle n'est autre que le roi Salomon, ici appelé l'Ecclésiaste. Dans la salle ici, et partout ailleurs, il y a des gens qui cherchent des diplômes pour leur avenir. Des gens qui sont diplômés, qui cherchent du travail. Mais ceux-là qui travaillent, ils cherchent des promotions. Vous voyez comment est-ce que les choses se présentent dans la vie. Il y a ceux-là qui se recherchent pour arriver quelque part. Mais aussi, il y a des gens qui sont déjà arrivés, qui vivent les surplus, les uns pour aider les autres, mais les autres, sans connaître Dieu, vivent dans la folie et dissipent tout ce que le Seigneur leur a donné. Mais ce roi sage, qui avait aussi dans la recherche, comme nous venons de le dire, il s'est recherché dans sa jeunesse. Il a cherché à trouver de maisons, de moyens, et le Seigneur lui a donné. Et un jour, il n'a pas vécu une jeunesse qui manquait beaucoup de choses, une vieillesse qui pouvait lui faire regretter les temps passés, mais lui avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il cherchait. Il était roi. Nous connaissons qu'il était sage. Beaucoup de leaders des nations accouraient vers lui. Il travaillait et il a fait des choses et des choses. Quand vous lisez la Bible et que vous voyez, que vous considérez ce qu'on mangeait par jour dans sa cour, c'était plus. Par sur quoi? Il avait 1000 femmes. Mais en considérant toutes ces choses, il est arrivé à donner un message aux humains que nous sommes. Il dit, ceci doit être le destin de tout homme. La crainte de Dieu est l'observation de ses commandements. Il était passé partout, il a eu tout. Il a donné tout, mais en fin de compte, il avait un message. Vous qui vous recherchez, vous qui êtes arrivés, vous qui recherchez encore, moi je suis passé par tout ça, je vous donne un conseil. Craignez Dieu et obéissez à ce qu'il vous dit. Vous qui vous recherchez, dans la crainte de Dieu, il y a tout. Dans l'observance de ses commandements, vous allez réussir. Et vous qui êtes déjà là, ne perdez pas de temps. Continuez à craindre Dieu et à lui obéir. Pour quelque chose, il y aura un jugement que celui qui vous a fait ce que vous êtes et que vous, qui vous fera ce que vous serez, qui vous attend de lui. Il jugera tout ce qui est caché, que ça soit bien ou que ça soit mal. Je vais parler ici des motivations qui nous poussent à agir comme nous agissons, des motivations qui nous poussent à parler comme nous parlons et à pouvoir monter des stratégies comme nous les montons. Les motivations sont cachées. Ça peut produire de bonnes choses, comme aussi de mauvaises choses. Mais en dépit de tout cela, le Seigneur dit, il y a un jugement qui sera là et qui est suspendu devant nous. Ces paroles m'ont beaucoup et continuent à influencer mon destin. Malgré tout ce que je peux être, tout ce qu'on me dit que je suis, il y a un jugement qui nous attend. Dieu passera tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons maintenant et tout ce que nous avions fait par un examen, un test. Et cette parole, ces conseils de Salomon puissent nous aider ce matin à comprendre que nos motivations doivent nous amener à quelque chose, la crainte de Dieu. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui agissent. Quand vous les entendez et vous les voyez, c'est comme si il n'y avait rien devant eux. Ce matin, je vais vous dire qu'il y a un Dieu au ciel qui est parmi nous par Jésus-Christ à cause de la foi que nous plaçons en lui, qui contrôle tout, qui voit tout, qui ne laissera rien sans agir. Et il agira. Et il n'y aura pas de complaisance. Dieu est trop juste qu'il ne puisse pas permettre qu'il y ait quelque chose qui puisse l'échapper. Il ne peut pas favoriser les faibles, ni décourager les vaillants et qui obéissent à sa voix. Puisse ces paroles nous aider pour ces premiers nés dans la foi qui n'est autre que Salomon. Les deux choses prioritaires, c'est la crainte de Dieu et l'observance des commandements de Dieu. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas nous dire comment nous allons nous y prendre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, comme il l'avait conduit. Il est en toi, il te conduira. Tes motivations changeront. Et cela dépend de toi à partir de ces rappels. Le Seigneur dit, et la Bible déclare, qu'il est derrière sa parole afin de l'accomplir. Dieu veut que chacun de nous sache que la crainte de Dieu et l'observance de ses commandements augurent de bonnes choses. Le deuxième personnage, c'est né autre que Jacob. Dans Genèse chapitre 47, 28 à 31, si on peut nous passer ces passages-là, Genèse chapitre 47, 28 à 31. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Et les jours des années de sa vie, de la vie de Jacob, firent de 47 ans, 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Amen. J'ai pensé à ces gestes. Il y a beaucoup de passages que vous pouvez lire, mais on va me préparer Hébreux 11, 12. J'aurais voulu lire tous ces passages qui sont au nombre de 4 pour voir la pérennisation des convictions et du geste de Jacob. C'était né dans la foi en Dieu. Vous savez que là qu'il dit ces choses, il n'est pas dans la terre sainte, la terre promise. Il est en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Mais, malgré toutes ces années passées en Égypte, 17 ans, il avait quelque chose dans son cœur qu'il ne voulait pas garder pour lui-même, mais qu'il a transmis à son fils. Et il a fait un geste. Je ne sais pas, à leur époque, ce qu'il y avait dans la cuisse, c'était la cuisse gauche ou de la jambe gauche ou droite, je ne sais pas. Mais il a hérité de son père Abraham, qui avait demandé à son serviteur de tenir sa cuisse aussi et de jurer qu'il allait là qu'il était indiqué d'arriver. Et c'est ce que le serviteur avait fait. Vous connaissez l'histoire. Il avait trouvé une femme à son fils Isaac, dans la famille qu'il voulait que Isaac ait son épouse. Il avait tenu aussi par la cuisse. Ce n'est pas jusque-là ce qu'il y avait, mais le Saint-Esprit nous le révélera un jour. Ici, Jacob, lui aussi, dit à Joseph, « Je sens que je veux m'en aller, mais ici je suis dans la terre étrangère. » La promesse de Dieu à mon père et à mon grand-père est que notre terre, c'est Canaan. Ne laissez pas mes os ici. Si je trouvais grâce à tes yeux, n'oublie pas ça. Tu m'amèneras donc mes os avec toi en Égypte, en Canaan. Je sais qu'un jour, l'héritage que Dieu nous a fait, cette promesse-là, sera tenue. Même si aujourd'hui, nous y sommes arrivés à cause de manquements, à cause de la famine, même si tu occupes une grande position dans ces pays, je veux que tu saches que nous avons une promesse de la part de Dieu. Nous serons un jour chez nous. Nous ne serons pas ni esclaves, ni démunis. Nous ne serons pas aveuglés par ton poste. Il faut qu'un jour, on rentre chez nous. La promesse de Dieu est immuable. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que par ces paroles et ces gestes, vous puissiez comprendre que la foi et l'espérance dans les promesses de Dieu doivent faire l'objet de nos méditations, de nos jeûnes et prières. L'instruction et la conviction qui est passée ici d'une génération à l'autre doit nous interpeller. Il y a des gestes que nous posons. Il y a des paroles que nous prononçons, mais si c'est plein d'une grande conviction, ça sera pérennisé. Quand vous lisez Exode 13, 9, Jacob est mort. C'était le tour de Jacob, de Joseph, qui avait juré qu'il transporterait les os de son père à Cana. Lui aussi, sa fin était là. Lui aussi a transmis cette même conviction, la foi et l'espérance que nous avons chez nous, selon les promesses de Dieu. Il a transmis ça aux générations qui ont suivi. Moïse dit, quand il partait de l'Égypte, selon ce que Dieu leur avait demandé, il n'a pas laissé les os de Joseph. Joseph lui dit, j'ai aussi la même espérance et la même foi que ce que Dieu avait dit sur nous, Juifs, son peuple, s'accomplira. Même si nous deviendrons quoi que ce soit ou qui que ce soit, nous avons un chez nous. Un jour, nous y serons. Et Jacob, lorsqu'il voulait sortir, il a emporté les os de Joseph. Et quand vous lisez dans Hébreux 11, 22, je ne sais pas si le texte est prêt, je vois que c'est par la foi que ces os-là, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Qu'est-ce qu'il en dit? Le verset est là. Il avait dit dans Exode que lorsque je mourrai et qu'on m'enterrerait en Égypte en tant que premier ministre, mais vous, juifs, un jour, la promesse de Dieu sera tenue. Vous quitterez l'esclavage, vous quitterez ce pays et vous rentrerez chez nous. C'est là que mes os seront enterrés à côté des os de mes pères. Je vais parler à ce niveau des promesses à pérenniser, à passer à la génération suivante. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites de bien, toutes les promesses que Dieu a faites à votre famille, à votre avenir, sur votre travail, sur la nation, sur tout un peuple, est-ce que vous pouvez les passer ces convictions-là? L'héritage des promesses, ta foi dans les choses que Dieu t'avait commandées et continue à te commander, est-ce que la génération prochaine pourra les conserver? Si tu es léger, si tu tâtonnes, si tu penses aux à peu près, tu agis par rapport au pragmatisme, au lieu d'être enraciné sur des convictions inébranlables, immuables de Dieu. Ce matin, par ce patriarche, Jacob, son fils, Joseph, les générations qui ont suivi jusqu'à Moïse, ils tenaient cette demande-là de très loin et ils avaient emporté les os de ces gens-là qui avaient la conviction jusqu'à Canaan. Quelle est notre destinée? Nous, ce n'est pas Canaan. Avec toutes les bonnes choses qu'il y a, nous, c'est le ciel. Nous, c'est la demeure éternelle. Nous, c'est la présence avec Dieu. Est-ce que ton espérance en Dieu, cette conviction que tu seras, nous serons aux noces de l'agneau, est-ce que tu peux passer cela à la génération future? De la même manière que toi, tu l'as reçu. Ce monde de YouTube, des réseaux sociaux, est-ce que le pentecôtisme spirituel, biblique, peut encore se vivre? Nous, quand nous étions encore jeunes, l'Église n'était pas un endroit là qu'on venait pour s'enrichir. C'est un endroit là qu'on venait pour donner. Mais ici, l'Église est devenue un endroit pour recevoir. Et on réclame des forces. J'ai modéré. Je ne m'en prends pas à vous. Quelle est ma part? Nous avons chanté. Quelle est notre part? Et surtout qu'il y a le verset Galates 6:6. Quand on est invité pour aller prêcher quelque part, nous, à notre temps, on prêchait et on marchait, on fouillait même pour aller. Moi, j'ai servi le Seigneur. Mais aujourd'hui, on tournoie autour puisqu'on attend quelque chose. À l'Église, on ne vient pas pour s'enrichir, on ne vient pas pour l'Église nous donne. L'Église est là pour que nous puissions l'assister. Quand on reçoit un franc, un dollar de l'Église, on bénit le Seigneur. Mais ici, on réclame. On se fait même des coups bas. Non. Si vous voulez avoir de l'argent, priez. Nous venons de le faire. Allez faire des entreprises. Soyez en association pour créer des emplois pour les autres. Le Seigneur nous a promis de bénir les œuvres de nos mains. tout ce qui est à l'église, c'est à gérer avec sérénité, avec crainte. De notre temps, quand on grandissait, lorsqu'on avait des responsabilités à l'église, ce n'était pas un sujet de pouvoir ou de gloire. On refusait même, la Bible est pleine de gens qui ont refusé des responsabilités. Mais maintenant, on va dans des institutions bibliques, on fait ceci ou cela, on se cherche de quoi, pour se positionner. Et une fois qu'on a une responsabilité à l'église, c'est comme un pouvoir. On l'exerce avec personnalité. On ne salue pas les gens. On est là comme de tel et tel. Non, bien-aimés, Jésus n'a pas été ça. Et il ne sera jamais ça. Je vais parler, nous voulons simplement rappeler ces choses. Ces patriarches nous avaient légué un héritage. La conviction que Dieu est là et que ses promesses, tôt ou tard, seront tenues. Que de vagabondage, que de prophétisme. Je ne sais pas combien de pasteurs vous avez, peut-être 5, le pasteur de la famille, le pasteur des études des enfants, le pasteur qui prie pour l'emploi, le pasteur qui fait ceci. Vous avez beaucoup de groupes de prières et de frères et sœurs qui sont même inconnus de nous, mais vous-même vous les connaissez. Tout cela, puisque vous n'êtes pas sûr de ce que le Seigneur a dit. Quand Dieu a parlé et il agira. Ici, Jacob avait foi en l'héritage de la Palestine. Nous avons foi en la présence de la cité céleste, la présence des dieux, qui devrait être notre espérance bénie, selon les Écritures. Je vous ai dit qu'il faut, maman pasteur, je vous ai demandé de me faire signe, si du moins je dépasse les bornes. Le troisième personnage, dans Genèse 33, 4 à 10, il s'agit de ses frères jumeaux, Ésaü et Jacob. Vous connaissez l'histoire. C'était des amis, des frères, mais qui sont passés par des conflits, des temps de brouillard. La Bible dit qu'il est passé, qu'ils se sont séparés d'il y avait 20 ans. Jacob est parti après avoir triché ou volé les droits d'aînesse. Son frère est resté avec la haine quand il avait appris que le droit d'aînesse était parti. Il avait dit qu'il allait tuer son jeune frère. Et c'est à cause de ça que la maman, qui ne voulait pas la mort de Jacob, l'avait fait partir et ses parents. Et Ésaü est resté avec cette haine-là. Et il tenait à se venger. Et Jacob, de là qu'il était parti, vous connaissez l'histoire. Dieu l'a béni, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais, j'ai dit bien mais, malgré toutes les richesses eues, malgré les enfants, les femmes ramenées, il avait le sentiment qu'il n'était pas à un bel endroit. Il fallait qu'il retourne dans la famille. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que ce geste de ces jumeaux nous interpellent. La réconciliation, quoique demandant beaucoup, est toujours possible. Et il requiert de chacun de nous qui vit avec des sentiments de haine, les sentiments de vengeance ou de culpabilité d'avoir commis quelque chose de mauvais, de méchant envers son prochain, de reconnaître que la réconciliation est possible. Et cette réconciliation n'est pas quelque chose qui est aléatoire, mais c'est nous imposer. Dieu l'a dit au travers de l'apôtre Paul, que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Et ce verset-là de 2 Corinthiens termine en disant, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui est réconcilié, qui veut la réconciliation avec l'autre, sous-entend qu'il y a eu des différends, qu'il y a eu des incompréhensions ou des malentendus qui ont fait que les gens qui étaient ensemble puissent se séparer. Ce matin, le Seigneur veut nous dire que la réconciliation est de Dieu et il est dans chacun de nous. Toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et, Sauveur a ce ministère-là. Ce ministère est là. Il n'attend qu'à être amorcé, commencé. Jacob avait pris l'initiative. Il s'est dit non, je ne peux pas vivre jusqu'à ma mort dans l'indifférence qu'il y a un grand frère, un aîné. Non, je vais faire quelque chose. Et comme ce ministère est dans chacun, Ésaü quelque part, lui aussi s'était dit, mais après tout, même si j'étais resté et que le doigt d'aîné s'est parti, mon père m'avait aussi béni et il avait aussi des biens. Dieu, tel que vous êtes là ce matin, si vous avez un quelconque différent, personnel ou collectif, que ce soit dans la famille, que ce soit au lieu de travail, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit dans la vie courante, que ce soit au niveau des églises, n'oubliez pas et n'oublions pas que nous avons reçu de Dieu les ministères, les services pour la réconciliation. Quelqu'un qui travaille à la réconciliation, c'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu est là et qu'il recevra de lui tout ce qu'il y a de meilleur. Les droits d'aînesse exigent un gros et un grand cœur pour accorder le pardon. La réconciliation est là, mais elle doit être suivie du pardon. Souvent, lorsqu'on parle d'Ésaü et de Jacob, nous, de notre temps qui connaissons les tenants et les aboutissants, voyons simplement les côtés, les bons côtés de Jacob, comment Bethel et tout ça. Mais pour parler de Ésaü, c'est un peu difficile. Ce matin, je vais vous dire que cet aîné-là, malgré qu'il fût dépouillé, il avait développé un gros et un grand cœur. Recevoir son jeune frère. Les droits d'aînesse exigent ça. J'ai appris d'Ésaü ces cœurs-là, ces cœurs qui pardonnent, ces cœurs qui acceptent. Et lorsque vous lisez ces passages-là, vous allez trouver que ce n'était pas facile. Pour Jacob, il avait pris le dessus et il avait tous les moyens. Son aîné devenait comme son serviteur. Mais le jour de la réconciliation, tout était redevenu normal. Pourquoi? La Bible dit que avant qu'il puisse rencontrer son grand frère Ésaü, la culpabilité était dans son cœur. Il s'était prosterné cette fois pour lui dire que tu es digne de recevoir ce que je t'avais volé. Mais aussi, pas seulement ça, il lui a donné à peu près 600 têtes de bétail. Mais en plus de ses dons, il avait prononcé des paroles. Il ne l'avait pas appelé grand frère, il l'avait appelé si tu peux accepter mon Seigneur. Et il accepterait ces choses-là de qui? De son serviteur. Sachons, lorsque nous savons que nous sommes méconduits quelque part, à pouvoir chercher à réajuster. Le radicalisme n'est pas de Dieu. Le radicalisme, c'est du diable. Ces deux frères devraient constituer pour nous un moyen de changer notre destin. La foi exige que dans la vie, c'est Jésus qui nous l'a dit. Luc 17. Il est impossible qu'il n'y ait plus de scandale parmi vous. Moi, je ne me penche pas du côté des malheurs qui vont suivre cela, mais nous avons été aussi pardonnés. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui pardonne. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Même celui qui vous a offensé, même la personne que vous avez offensée, devrait chercher la réconciliation. Et il faut consentir à ces prix-là. Réajuster. Ne soyez pas radical. Cherchez à arranger les choses lorsque l'occasion est là. J'espère que je n'ai pas débordé. Je termine avec ma prière que je faisais à votre niveau. Quand je priais pour venir, malgré tout ce que j'ai eu là, l'influence de la foi de nos aînés, j'ai dit, mais particulièrement, quel est le message que je vais apporter aux amis? Ah, là je vais lire. Le Seigneur m'a donné une image. Et cette image m'a beaucoup frappé. Il y a ceux-là qui vous suivent de loin, mais moi je suis avec vous en live. Lisons Matthieu chapitre 5. Et l'image est là, versets 14 à 16. Dieu m'a dit qu'il fallait que je vous dise que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il m'a particulièrement dit que UPN, la Borne, c'est une ville qui est située sur une montagne. Personne ne peut la cacher. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes des aînés. Que vous le vouliez, que vous soyez conscient ou pas, vous influencez beaucoup de choses. Il faut simplement être quelque part. Il y a des gens qui s'arrachent pour écrire extension là-bas. Mais vous-même ici, vous ne vous en rendez pas compte. Il y a ceux qui se battent pour avoir votre carte, signée par, même d'une manière frauduleuse, qu'il était membre de là-bas. Mais voici ce que le Seigneur me dit. Est-ce que je peux lire avec vous? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est tout. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui? C'est le verset 14, je pense, qui parle de la ville qui est sur la montagne. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. C'est que le Seigneur a dit précisément, l'image qu'il m'a donnée de vous. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce que vous en êtes conscient? Il nous a fait ce que nous sommes afin d'être admirés, apprécié, redouté, recherché, considéré tous les avantages et privilèges que vous aviez eus, que vous avez et que vous aurez, afin de faire jouir ces choses aux autres qui ne les ont pas, qui n'ont pas ces choses-là, qui courent derrière ce que vous avez. La demande du Seigneur est que nous puissions tous ensemble reprendre notre flambeau. Selon Romains 8, 29, le Seigneur ne se répand pas ni de ses dons, ni de son appel. Qu'est-ce qui avait été attaché à cette église? Vous avez un héritage du pentecôtiste, du pentecôtisme biblique, loin du spiritisme. Vous avez des paroles de vos aînés et de votre Père, qui est le nôtre, nous tous, qui sont véhiculés à longueur des journées. Est-ce que vous pouvez les saisir et tenir sa cuisse afin de laisser ces choses-là aux générations futures? Ne dérangez pas la borne qui a été posée. Soyez des colonnes et des colonnes réelles. Soyez conséquents avec Salomon dans la crainte de Dieu et dans l'observance de ses règles. L'Église a des statuts et des règlements intérieurs. Nous sommes des personnes qui marchent dans le monde moderne. Et le monde moderne, c'est les droits. Puissions-nous marcher avec Salomon, puisque dans la crainte de Dieu, l'observance des commandements est automatique. Est-ce que nous pouvons marcher à l'instar de l'Ecclésiaste? De la crainte de Dieu. Est-ce que nous pouvons marcher avec Jacob et la pérennisation des promesses? Qu'est-ce que les gens qui viennent après vous vont recevoir de ce que vous avez reçu de vos pères? Quels sont les fondements qui ont fait ce que nous sommes ici dans cette église et qui doivent être pérennisés? Si vous n'avez pas de personnes qui gardent ça, comme Jacob, d'Abraham, pour Isaac. Comme Joseph, de Jacob. Comme les Moïse, de Joseph. Nous n'emporterons rien dans la terre promise. La génération future dira, nous ne savons pas. Ils vont se chercher les ismes. Si on manque ces personnages-là, qui sont les gardiens du temple, les choses ne marcheront pas. Est-ce qu'à l'instar des frères jumeaux, nous ne pouvons pas nous culpabiliser? Nous ne pouvons pas aussi accepter qu'il y ait réconciliation si les occasions se présentent. Nous avons des frères qui nous ont quittés, qui ne savent pas s'ils peuvent revenir. Mais si nous sommes disposés, avant même qu'ils reviennent, que nous sommes disposés à les recevoir, le Seigneur agira. Mais si nous nous radicalisons dans l'exclusion, les portes seront fermées. Et que dirons-nous devant le Seigneur? À l'instar de Jésus-Christ est notre responsabilité. Que nous ne voulions pas, nous sommes une ville placée sur la montagne. Nous devons être conséquents de ça. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur m'a donné pour ce dimanche. Vous rappelez simplement qu'il y a des paroles, il y a des gestes, il y a des images qui doivent, de nos aînés dans la foi, qui doivent influencer notre destin. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec 6 personnes vu l'exécuté de notre emplacement. J'apprends que vous allez bientôt construire. Que 6 personnes volontaires qui veulent prier avec nous. Je vais vous donner les sujets. Nous allons nous lever tous. Je vais descendre avec mon épouse. Que les 6 personnes viennent volontaires. Nous voulons vous passer les sujets de prière. Et nous allons prier ensemble. Six personnes volontaires qui ont écouté les messages, j'aimerais que 8 personnes, s'il vous plaît. Oui, 8. Un peu éloigné, 2-2. 2-2. Vous êtes déjà 8? Vous deux. Ah, aussi la maman, c'est bon. Maman, venez. 2. Déjà? 2. L'abondance ne nuit pas. Papa, venez avec nous ici. C'est bon. Nous allons nous tenir tous debout et nous allons avoir un moment de prière. Les deux premiers ici, vous allez nous aider à implorer la grâce de Dieu. Vous direz simplement qu'à l'instar de Salomon l'Ecclésiaste, nous voulons que la crainte de Dieu touche tout croyant. La crainte de Dieu va nous amener à l'obéissance au commandement. Priez pour le pays, priez pour l'Église, priez pour nos familles. Que la crainte de Dieu, comme Salomon, puisse nous aider. Vous deux, vous allez nous aider, à l'instar de Jacob. La pérennisation des promesses de Dieu. Que les gens ne puissent pas, quand ils viennent, ils pensent qu'ils veulent faire, inventer la cinquième roue. Oui, il y a des innovations, mais les fondements doivent être gardés. Qui est le passage de ce que nous avons reçu de père en fils et de génération en génération. Vous allez vous focaliser sur ça pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. Moi, j'ai la foi que quand il donne un message, il est prêt à pouvoir l'accomplir. Mais il faut que nous puissions le lui dire. Et vous autres, deux, vous allez penser aux jumeaux. 20 ans de séparation. Mais il y a eu quelqu'un qui a déclenché. Le ministère de la réconciliation est là, devant nous. Et le Seigneur nous l'a donné. Mais qui va commencer? Vous vous attendez à ce que lui vienne. Lui aussi attend que c'est lui. Et lorsqu'ils s'étaient embrassés, il n'y avait pas de justification. Le grand frère n'a pas dit, je t'embrasse, je m'aime, toi tu m'avais volé. Les jeunes frères n'avaient pas dit, oh non, je m'excuse, c'était puisque vous avez aussi pris ma nourriture. Non, il ne s'était pas excusé. Il ne s'était pas excusé ni justifié. Il s'était juste embrassé. Nous sommes appelés, ils avaient même pleuré pour ça. Vous connaissez la suite. Priez pour que cela arrive. Il y a des familles qui sont divisées, des foyers disloqués. La réconciliation est encore possible. Tant que nous vivons, c'est faisable. Et enfin, c'est vous qui prendrez tout ce que le Seigneur vous dit. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Ça ne peut pas être caché. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tous les gestes que l'IPN fait est suivi de partout. Est-ce que le Seigneur ne peut pas nous aider à ce que nous soyons réellement, que nous replenions notre flambeau pour éclairer les nations? Et nous allons les accompagner. Prions ensemble l'Église, prions ensemble. Seigneur, ce n'est pas impossible, c'est possible éternel, c'est possible Jésus, tu es mort pour ton Église, nous sommes là Seigneur pour te craindre, nous sommes là pour accomplir tes volontés. En Jésus-Christ, tout est possible. Comme Jacob, nous avons la responsabilité, le devoir de passer ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous avons reçu intégralement aux générations futures. La Kodai, c'est de
L'oméga il te secaudé, l'o irefe caloda satite de faux, imekarie de clé, l'oreki de feloga, amigé golo satide, makosai de faille, l'oremeko da sode. C'est possible, alléluia. C'est possible, Seigneur. C'est possible que les générations futures reçoivent intégralement ce que nous avons eu. Ton évangile était très loin de nous. Seigneur, les voici avec tous ces signes chez nous ici au sud de l'Afrique. Seigneur, merci. C'est possible encore pour les réconciliations dans nos foyers, dans notre pays. C'est possible que les divisions à tous les niveaux cessent. Que cet amour, Seigneur, nous fasse regagner, Père de gloire, ce qu'il faut. Père, cette église, c'est toi qui la vois placée sur la montagne. Et tout ce qui se passe ne peut être caché, Seigneur. Redonne les flambeaux, les doigts de naissance, les doigts de naissance. Que ça remplisse chaque cœur de cette assemblée et que la mission ou les missions imparties à cette église soient accomplies par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.